La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves, tu nous parles d'abord du bilan présenté hier de la Caisse de dépôt et de placement qui, je dirais, nous laisse entrevoir un avenir un peu plus houleux.
Mais il faut dire que l'avenir de cette année était un peu beau. On a fait 5,6% depuis le début de l'année à la caisse. N'oublions pas qu'on a des titres à revenus fixes à la caisse. On n'a pas juste des portefeuilles d'actions parce qu'on a des déposants qui sont beaucoup plus, disons, défensifs. Ça fait en sorte que quand tu réussis sur 6 mois à faire 5,6%, c'est un rendement appréciable. Et là, on dit qu'il y a des limites. Pendant 2 ans, on nous dit qu'on a eu des rendements basés sur des valeurs qui étaient plus grandes proportionnellement aux bénéfices, puis que là, l'exposition 2021 est plus liée aux bénéfices, mais on nous dit qu'il va y avoir probablement de la volatilité, on doit se repositionner. On parle des technologies d'une autre façon aussi, on nous dit Apple, Google, Amazon, ce sont des compagnies qui maintenant font partie, contrairement au début des années 2000, de l'échiquier même politique, parce que, tu sais, l'info nuagique des gouvernements puis des entreprises est là-dessus. Donc, c'est pas le même rapport à la technologie qu'avant. Et c'est rendu tellement surpondéré dans le système ou dans les indices boursiers qu'on dit à la caisse, on n'a pas le choix, donc on a augmenté notre pondération dans les technologies à cause de ça. Et pendant ce temps-là, on a une trame de fond de la Fed qui dit, écoutez, faut lutter peut-être contre l'inflation, donc ralentir l'espèce de buffet ouvert sur le crédit pas cher et peut-être resserrer notre politique monétaire. Et ce que ça sous-entend pour le futur, c'est que s'il y a un resserrement de politique monétaire, les taux d'intérêt pourraient augmenter, les taux variables augmentent, le crédit est moins accessible, les gens retournent dans des investissements différents que les actions. Donc, il y a possibilité que ça soit houleux. Et la caisse nous dit aussi... On est diversifié à travers le monde, là. On a 35% aux États-Unis, 32% au Canada, puis le reste dans le reste du monde. Donc, nous, on a une exposition aux devises qui nous a pas été super favorable récemment. Donc, ça aussi, ça pèse dans le calcul qu'on fait du rendement de la caisse.
Mais pour les gens qui nous écoutent, puis on n'a pas des portefeuilles là, variés comme la caisse, là, si tu regardes ça, puis tu dis la prochaine année va peut-être être un peu turbulente aussi.
Ah, il y a des gens présentement qui liquident certaines parties de leur portefeuille okay. En se disant qu'il y a de l'argent qui a été fait, puis ils veulent sécuriser leurs gains. Puis ils se disent, ben, sais-tu quoi, même si je perds du rendement futur, je vais sécuriser une partie. Il y en a d'autres qui me disent, ah, je vais avoir un actif parce que un actif va me protéger, qui est, disons, immobilier contre autre chose. Il y a des choix personnels là-dedans. Mais t'as raison, quand ça a été houleux, quand ça a été bon, puis on a peur que ce soit houleux, on a peur de perdre des gains. Mais faut pas oublier que ce sont des gains. Et donc, s'il y a des gens qui disent, j'ai peur de perdre du capital, pour perdre du capital, faut radier les gains depuis le début de l'année. Alors, ça donne quand même un jeu aux gens qui ont peur de perdre de l'argent, de dire, c'est pas votre épargne que vous perdez, mais le rendement.
OK. Parle-moi de l'inflation.
Ah! Tu parles d'inflation, Paul.
En fait, c'est pas que j'ai peur de l'inflation. C'est-à-dire que moi, ce que je remarque, puis c'est pas parce que c'est quoi, 3,4, là, c'est la plus forte hausse depuis 10 ans. Là.
Au Canada.
Moi, si je regarde les prix, puis je me dis, tu sais, tout est plus cher, là. T'sais, tu payes plus cher pour tout. On l'a vu là, avec les matériaux. Je regarde le prix des aliments. Je regarde... bref.
La viande.
Le prix de l'essence à 1,43. T'sais, il me semble que tout est plus cher.
Et le gouvernement se demande, est-ce que cette inflation-là est un peu temporaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de vivre un choc d'offres et de demandes lié au fait qu'on a tout fermé pendant la pandémie et que là, on repart la machine et qu'on peut pas fournir et donc ça crée une pression à la hausse. Un peu comme le 2 par 4 qui avait eu une augmentation significative, mais là, ça a redescendu. L'essence avait beaucoup baissé pendant la pandémie. Ça remonte. Là, on dit là, la production n'est pas à la hauteur de la demande et c'est pour ça que ça augmente. Il y a toujours une bonne raison aussi. Hein? Mais l'indice des prêts à la consommation, c'est 8 composantes, principalement, dont les aliments, le logement, des dépenses d'ameublement, des chaussures, du transport, mais en somme, ce sont des composantes qui sont des fois ponctuellement affectées par une situation comme on vit présentement. La question, c'est, est-ce que ça va durer longtemps? Parce que là, on dépasse la fourchette de 1 à 3% qui est visée par les instances.
Non, mais je donnais l'exemple plutôt ce matin des restaurants. OK, oui. D'abord, un, les restaurateurs n'ont arraché. Deux, ils peuvent pas accueillir autant de clients qu'avant.
Exact.
Trois, ils paient leur main-d'œuvre souvent plus cher. Puis quatre, le prix des aliments a aussi augmenté.
Oui, puis cinq, Ils ont la concurrence du gouvernement pour l'entrée parce que
oui.
Ce qu'on me dit, c'est que tu sais, dans les grands restaurants, par exemple, le restaurateur me dit, écoute, j'ai mon chef, mon sous-chef, mais tous ceux qui rentrent là pour faire ce qu'on appelle la prep ou qui commencent en cuisine puis qui acceptaient les salaires de départ, ils, ceux-là, ils veulent pas revenir. Ils disent, ceux-là, ils, présentement, ils ont un chèque, puis là, c'est dur à aller chercher, puis ils se réorientent, puis ils se demandent ce qu'ils vont faire. Puis... Tandis que lorsqu'il n'y a pas d'aide gouvernementale, il n'y en a pas d'option. Faut que tu rentres travailler, donc tu es en début de cuisine, tu rentres en cuisine et donc...
Mais ça veut dire que ton coût est plus élevé.
Oui, ton coût est plus élevé, mais ça veut pas dire que ton client est prêt à absorber la différence.
Ben, moi, je regarde les augmentations de prix depuis que les restos ont ouvert.
C'est significatif.
C'est important. Tu sais, puis je les comprends parce qu'ils font face à une augmentation des coûts. Tu sais, on se réjouit de savoir que les employés gagnent plus cher, avec raison, mais il faut que ça se paye à un moment donné.
Ben, c'est toujours ce qui est drôle un peu. C'est un peu comme le salaire minimum. C'est le même principe, c'est que tout le monde est pour la vertu jusqu'à temps que devienne consommateur ou client. « Hey, c'est donc bien rendu cher! » Ben oui, tu veux que le salaire minimum soit à 18$, je peux plus te faire ton Big Mac au même prix. Et donc, c'est un peu la même réalité. Et ça va influencer ton portefeuille et la caisse. Tu m'en parlais tantôt avec le président de la caisse. C'est qu'ils vont réorienter leur pondération dans différents niveaux, différents types d'investissements. Puis, tu as un risque pour les emprunteurs. Que, imagine, tu as des titres à revenu fixe. Tu fais, je sais pas moi, 2 % de rendement, mais tu as 4 % d'inflation. Ça veut dire que ton rendement effectif, il est pas vraiment dans les plus. Donc, une façon pour les gens de se protéger contre l'inflation, c'est pas juste d'être capable de négocier une augmentation de salaire qui est équivalente à l'inflation ou plus élevée. C'est d'être capable aussi d'avoir des actifs qui un jour vont prendre la valeur. Donc, par exemple, la meilleure couverture contre l'inflation souvent d'un patrimoine familial, c'est souvent la résidence. Comme on l'a vu dans les dernières 20 années, les gens ont réussi à monter la valeur de leur patrimoine souvent en ayant une augmentation de la valeur de leur maison, de leur condo ou peu importe, leur immeuble à revenus.
Mais je vais donner un exemple ce matin très concret. Tu vas trouver que c'est fort, là. Tu parles de l'inflation, l'augmentation des prix des denrées. Puis bon, c'est une auditrice qui m'écrit, le plus sérieusement, qui me dit, exemple, tu sais, les fameuses portions moins importantes là, qu'on retrouve, oui. Là, les trous des biscuits soda ont doublé. Là, je te jure, elle me dit, sans farce.
Elle a mesuré le trou des biscuits.
Faut croire, elle dit, la différence est frappante. Là, je suis pas allé voir, là, tu comprends? Là, je viens de recevoir ça.
Mais t'as raison que l'inflation, pour ne pas influencer le prix, est souvent transférée dans l'alimentation, dans les formats.
Ben,
on a vu apparaître des formats de lait de 1,5 litres. On a vu des jus d'orange à 1,89 litres.
Attends, j'en ai d'autres, là.
OK.
Le sac de biscuits Célébration, qui était à 300 grammes, est passé à 270 grammes.
Okay.
Et dernièrement, le sac est passé à 240 grammes.
Ben, c'est comme les tranches de singles, tu sais, le Kraft qui était passé de 24 à 22 tranches. Non, mais il y a des gens qui sont observateurs.
Ben,
là,
avec raison.
J'en ai moins qu'avant. Puis tu sais, des formats de sauce qui changent. Tu sais, avant, c'était 200 millilitres. Là, c'est 177 millilitres. Pourquoi ils ont coupé de 23 millilitres? Ben, 23 millilitres sur des milliers de tubes, ça fonctionne.
Merci, monsieur. Salut.
C'est 23.